Alors là, il s'agissait de détourner des éléments comme la chanson ou comme le théâtre pour les faire servir à une cause politique. Et ça, je crois, on a réussi. Ce qu'on n'a pas réussi, par contre, et on a réussi, je veux dire, on a réussi parce qu'on l'a fait, et ça a beaucoup marqué. Et chaque fois qu'on a fait un acte comme ça, ça a beaucoup marqué, surtout dans les usines occupées ou dans les endroits où il y avait déjà des gens extrêmement actifs. C'était souvent bouleversant, la rencontre. Et ça permettait aussi à une autre idée, qui était une des grandes idées de mai 68, les plus importantes peut-être, qui était celle de réunir les gens à vocation intellectuelle avec ceux qui étaient ouvriers ou paysans. À l'époque, il y en avait encore. Donc. Et ça, à mon avis, une grande idée de mai 68. C'était une très belle idée, parce que ceux qui étaient dans les postes intellectuels ou qui se préparaient, les étudiants qui se préparaient à devenir des médecins ou des avocats, ils ne savaient rien de la classe ouvrière, ils ne savaient rien non plus de pratiquement de... En tout cas, plus ils étudiaient, plus ils s'en séparaient, même s'ils en venaient, ils s'en séparaient, ils n'étaient jamais ensemble, c'est ça que je veux dire. Tandis que l'idée de mai 68, des comités d'action par exemple de mai 68, c'était de réunir tous les gens, et surtout ces gens actifs dans ces domaines. Ça, c'est une idée qu'on a poursuivie pendant une dizaine d'années. On a bien fait. C'est une très bonne chose quand on a, par exemple, entre 20 et 30 ans, de pouvoir être confronté à des gens dont la nature et les activités sont très différentes. C'est une très bonne chose. Et moi, pour ma part, qui travaillais dans un milieu plutôt intellectuel, disons, les moments où j'ai vraiment vu des ouvriers, des paysans, et j'ai travaillé avec eux, j'ai vécu avec eux, c'est dans ces moments-là, entre mai 68 et les années 80.
Est-ce que vous étiez techniquement équipé dans ces concerts, ou est-ce que vous montiez sur des caisses à chanter sans hi-fi ou quoi?
Non, on n'avait rien. On n'avait absolument rien.
Mais c'était important de ne pas être équipé techniquement?
Oui, c'était important, oui. En tout cas, au début, on n'avait rien. On avait occupé un théâtre, le théâtre de l'Épée de Bois, pas pour faire de l'art, mais pour réunir des gens. Donc, on a réuni des gens, et puis dans la discussion politique, on voyait quels étaient les thèmes qui apparaissaient. On créait des chants ou des pièces, des scénettes, on appelle ça des scénettes, des pièces très courtes, de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes maximum. Et ces pièces étaient destinées donc à prendre une idée politique, l'exprimer, et puis faire réagir les gens qui l'avaient vue. Voilà, donc ça demandait de pouvoir se sauver très vite si, par exemple, il y avait une descente de garde mobile, ou on faisait ça dans les manifs aussi, on faisait ça partout. Donc il fallait pouvoir être très mobile. Une guitare et c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'on avait. Dans les jeux de rôle, c'était simplement des gestes, et
un masque. La plupart du temps, il y a des sonos.
Non, on n'avait pas de sonos. On n'avait pas de sonos.
On a l'impression que les gens ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas peut-être éventuellement communiquer quand ils organisent des manifestations.
À l'époque, la sono était réservée donc à des professionnels. Nous, on était quand même. Le but n'était pas de plaire aux gens, mais à les amuser, en fait, de les divertir un peu, tout en faisant passer une leçon actuelle politique sur les événements. Puisque les événements étaient en train d'avancer, on avançait avec. On n'avançait pas seul, on avait occupé un théâtre, on était une dizaine, mais on se trouvait des centaines après. Donc d'autres gens venaient, etc. Mais il suffisait d'arriver dans le théâtre, de l'occuper, et ils pouvaient. Et il y a des policiers aussi qui occupaient le théâtre avec nous. Il y a toutes sortes de gens même. Et des espions, et tous les partis. Tout le monde pouvait venir et occuper le théâtre et faire quelque chose. On avait simplement pris un engagement de pouvoir être une sorte de tambour et de répercuter les débats et les idées qui sortaient, qui nous paraissaient intéressantes, de les répercuter à l'extérieur, pour des gens qui ne sont pas aussi engagés, disons. Mais non, c'était extrêmement pauvre comme type de... Non seulement il n'y avait pas de rapport d'argent entre les gens, mais il n'y avait pas non plus de technique. Il n'y avait pas de technicien, déjà, il n'y avait rien. Il n'y avait que la bonne volonté et l'envie de créer des trucs. et tout. Oui, c'est une bonne question parce que ça me montre à quel point le monde a pu changer entre ce moment-là. Parce qu'on ferait ça maintenant comme ça dans la rue, je crois que ça n'intéresserait personne. Les gens, on serait emmenés très vite au commissariat et ce serait fini. Il n'y avait aucune vocation, voilà, à devenir professionnel de ça. C'était pas, il n'y avait pas de professionnel. Moi, j'étais le seul à avoir une formation. On était quoi? Non, j'étais pas le seul. On était deux ou trois à avoir une formation artistique sur 400 personnes. Les autres, c'était des gens qui travaillaient ailleurs. Il n'y avait pas une vocation. Il n'y avait pas une vocation. On a chanté des chants. Ils ont été enregistrés par une grande marque de disques qui a fait un disque. On avait comme accord avec eux d'avoir le disque pour financer nos actions. On les vendait pour financer les frais qu'on avait. Mais c'est tout. Il n'y avait pas l'idée de faire un groupe professionnel de ça. Ça n'existait pas. C'est les idées qui comptaient. C'est les idées et autre chose qui s'apparente au rêve, encore une fois, qui était que s'il y avait un bouleversement aussi profond, parce que moi, je crois que c'était très profond, contrairement à ce que disent toutes sortes de gens, mais maintenant, je ne vois pas sur quoi ils s'appuient, mais je crois que le bouleversement était profond. On ne peut pas avoir un million de grévistes en même temps, plus tout le monde étudiant presque sur les dents, si ce n'est pas assez profond, si ce n'est pas ressenti comme
une nécessité
vitale de sans laquelle on étouffe. Donc, il y avait cette part... Et si on allait vivre mieux? Et cette idée, comme ça, un peu stupide, mais et si en fait, comme ça, c'est déjà mieux, puisqu'on peut parler, on s'amuse, on est bien, c'est pas très violent non plus comme mouvement, il faut reconnaître, c'est un mouvement révolutionnaire, mais sans violence, pas trop, quoi. Bien sûr, il y a quelques morts, quelques gens qui ont été matraqués, bien sûr, ça existe, mais... C'est rien à côté de certaines révolutions, quoi. Donc, c'était l'idée, c'est une révolution, mais et si on allait être mieux, si ça pouvait changer vraiment le monde. De même que les échos de ce mouvement étaient internationaux. C'était, bien sûr, il ne s'agissait pas de Paris, et même pas de la France, il n'y avait pas de frontières, quoi. Les frontières n'existaient pas dans la tête des gens qui étaient, en tout cas, dans le mouvement de mai 68. Il n'y avait pas de frontières. C'était internationaliste.
Je vais passer à la question à propos de la culture bretonne. De quand date votre découverte de la culture bretonne? Qu'est-ce que cela a bouleversé chez vous, dans votre vision du territoire français, de sa culture?
Ça date de la même époque, c'est-à-dire le moment où moi j'étais engagé à Paris, parce que je vivais à Paris dans le mouvement de mai 68. Quelques années après, on a monté un autre mouvement qui était le mouvement du Secours Rouge et qui était proche de la gauche prolétarienne et qui avait pour mission de soutenir les actions ou les prisonniers politiques ou les gens qui s'étant engagés et étant en but à la répression avaient besoin donc ou un peu d'argent ou un peu de soutien politique ou un peu de soutien matériel. Et ce mouvement-là, à un moment donné, cherchait des gens. Là, ça s'est fait un peu par hasard, cherchait des gens pour aller dans la région de Nantes, entre Nantes et Saint-Nazaire, pour créer une alliance entre les paysans et les ouvriers. C'était en 69, 70. Ça m'a beaucoup plu comme idée. L'idée m'a beaucoup plu parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait pas rester à Paris seulement, mais il fallait que ça essaime, que ce mouvement, cette inspiration de mai 68 puisse se retrouver dans d'autres endroits, un petit peu comme... Il y a un foyer principal, peut-être, quelque part, mais il faut 1000 foyers, quoi. C'était cette idée un peu guévariste. C'est d'ailleurs à peu près tout ce que j'ai pris du guévarisme, mais c'est une idée qui me plaisait, que on pouvait créer des foyers d'insurrection ailleurs. Et des foyers d'insurrection basés sur une attitude résolument réflexive, artistique. Où on n'allait pas mettre ça à l'écart, on allait mettre ça au milieu. On va se servir des moyens artistiques pour ça. Donc c'est là où j'ai commencé à travailler en Bretagne, donc dans la région de Nantes. Et je me suis installé dans un milieu paysan. J'ai moi-même fait un peu de culture, travaillé un peu dans les fermes à ce moment-là. Et je me suis établi, comme on dit c'est à l'époque. C'est un établi. Et on a commencé, j'étais avec quelques camarades, et puis j'ai trouvé un groupe là sur place qui de contact. On a commencé à lancer l'idée de créer une pièce de théâtre qui, alors, plus développée, assez vaste, avec un style, et qui retracerait des événements paysans, mais qui serait fait uniquement par les paysans. Il ne serait pas écrit sur des événements paysans par un intellectuel ou un écrivain de théâtre, il serait fait par eux. Et donc c'était assez difficile, il fallait... comme c'était difficile, on a commencé par une chanson, on a créé comme ça, dans les veillées, dans des fermes différentes, une chanson qui était « Paysan en lutte », qui est devenue un peu une internationale du monde paysan à ce moment-là. Et cette chanson, ça s'est fait sur plusieurs mois, avec des veillées, tous les 2-3 soirs, dans les fermes, avec des gens, une quarantaine de gens qui étaient groupés. C'était absolument formidable. Et dans ce milieu, donc, moi, je présentais ce monde étrange, venu de la ville, où il y avait des insurrections, des voitures volées et tout ça. Mais c'est ce contact qui était extrêmement riche. Et comme les paysans et les ouvriers ont du mal à se parler, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Un de mes rôles était d'organiser des choses pour que les réunions puissent se faire en commun. Ce qui s'est plus ou moins bien fait, d'ailleurs. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai connu la culture bretonne, en allant dans les manifestations, en entendant parler des grèves. Et un jour, j'étais dans une voiture, on allait à une manifestation à Lorient, et quelqu'un s'est mis à chanter une chanson bretonne, en breton. Ça a fait un déclic en moi. C'était comme une langue retrouvée, ou une langue archaïque, quelque chose de... Je savais bien, il y avait... C'est pas clair pour moi que quelqu'un parlait breton, ça n'avait pas un sens. Même si dans mon enfance, j'avais dû en entendre, parce que j'avais été placé en Bretagne, mais c'était pas clair. Et brusquement, j'étais devant un étranger, quelque chose d'étranger, d'étrange, et de fascinant, absolument fascinant, une culture que je ne connaissais pas. Alors, à partir de là, j'ai tout fait pour la connaître. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert un peu la Bretagne. C'est comme ça que mon engagement, disons, ma contestation personnelle et ma contestation politique s'est teintée ou s'est doublée ou s'est approfondie d'une conscience bretonne, conscience d'un problème breton, un problème spécifique à des pays qui étouffent les cultures internes qui sont en eux, au lieu de les favoriser, au lieu de les laisser tout simplement vivre, ils cherchent à les étouffer. Donc il y avait là un air de la guerre, en quelque sorte. Quelque chose, il fallait faire sortir, il fallait absolument encourager les gens à utiliser leur culture comme un moyen offensif d'aller contre l'État capitaliste. Donc c'était un rôle que j'ai joué en chanson, là. Et là, je me suis mis à composer des chansons sous le nom de Kirjuel. J'ai pris un nom d'emprunt pour pouvoir travailler, parce que sous mon nom, je ne pouvais plus rien faire. Et c'était un nom breton. Donc j'ai bien signé là que je m'engageais aussi dans cette contestation. Je suis devenu un acteur de ce renouveau, disons, parmi la jeunesse bretonne de l'époque, qui maintenant sont des gens qui ont toute une vie derrière eux, mais... À l'époque, il découvrait ces choses-là. Il faut voir aussi que c'est une découverte et une remontée d'un gouffre dans lequel il se sentait enfermé, quoi, complètement. Il y avait eu quelques précurseurs, mais je crois que la génération des gens au début des années 70 C'est là où je crois il y a un coup décisif qui a été donné à cette culture bretonne qui maintenant perdure, continue à continuer. Il y a toute une histoire. On peut faire toute une histoire maintenant de la culture bretonne et au XXe siècle et maintenant encore, à travers ces écoles, à travers publications. Donc ça, au moins, la question d'avoir participé à ça me rend fier parce que je sais que là, on a eu un résultat. Et aussi le monde breton est un monde qui est fascinant à plus d'un titre, mais aussi sur le plan poétique, par exemple. C'est très poétique comme univers en breton. Les choses qui ont été compilées, les musiques qui ont été compilées au 19e siècle, comme le Barzaz Breiz ou les chants de Luzel, ou les choses comme ça, sont des trésors d'humanité, de poésie. Donc quand on découvre ça, on découvre un monde magique. Et c'était un aspect de cette génération de chanteurs de faire redécouvrir aux gens des choses où ils avaient oublié ou dont ils avaient honte aussi parfois. Marqué comme étant bretonnant, parlant breton ou s'intéressant de très près aux choses bretonnes, on les avait stigmatisés après la guerre comme des traîtres. Mais c'est toute une politique jacobine qui a fait ça. J'entre pas dans les détails, c'est très complexe, mais c'est faux. Sur l'essentiel, c'est faux. La Bretagne a eu beaucoup plus de résistants que de collaborateurs, beaucoup plus. C'est même pas. Pour 10 collaborateurs, il y a eu 4 000 résistants, par exemple. Mais ces 10 collaborateurs, on a fait croire que c'était justement des Bretons, des militants bretons. Ce qui était vrai d'ailleurs, c'était des militants bretons qui ont cru que s'ils collaboraient, ils allaient pouvoir avoir une Bretagne libre. Mais sur le fond, c'est un mauvais procès et par contre la honte était réelle, les gens étaient coincés entre. Ils ne sont plus du tout. Au moins ça, c'est une chose qui a réussi. Le verrou a sauté et plein de gens ont développé des expressions culturelles, écrivent en breton, il y a des livres qui sortent, des revues, il y a des disques. C'est intéressant de voir aussi que. Au moment où ça se faisait, dans les années, début des années 70, par exemple, la classe paysanne était très structurée encore. Il y avait quand même la bourgeoisie des villes aussi était très structurée, la classe ouvrière était très structurée. Et la langue bretonne est surtout portée par les campagnes, essentiellement. Elle existait encore dans les campagnes, mais surtout là, dans des endroits. Et dans des endroits qui étaient considérés comme plus ou moins inférieurs, en infériorité. Même des militants paysans bretons parlaient en français, ne faisaient pas leurs réunions en breton, même s'ils savaient le breton. Donc ça, c'était aussi une question intéressante parce que ce domaine a été passé sous silence et il a ressuscité en quelque sorte. Il n'était pas mort, mais il l'a ressuscité par des jeunes gens qui venaient des villes en général et qui ont repris un peu l'héritage et qui ont repris la langue. Et maintenant, comme par hasard, le breton est presque éteint dans les campagnes, mais il vit dans les villes auprès d'une population nouvelle. Et souvent, ces gens qui ont réappris le breton l'ont transmis à leurs enfants, ce qui fait que la transmission. On ne peut pas dire qu'elle s'est gagnée, mais c'est assuré en tout cas. Elle s'assure la transmission par les écoles diwan, par exemple, et par des éléments comme ça. École tout en breton ou école en double langue. Donc moi, j'ai participé à ça. C'était pour moi, dans mes chants, par exemple, maître du français et maître parfois du breton, c'était aussi me lier profondément à cette culture. Je suis resté très lié à ça, c'est-à-dire je suis abonné à plusieurs revues en langue bretonne, je lis des livres dans cette langue, c'est quelque chose qui reste très vivace et important. Comme un exemple aussi, je trouve important, alors je ne sais pas, on n'en entend plus vous parler, mais je trouve important que dans un pays comme la France qui a, ou l'Europe, enfin, mais c'est surtout la France qui est jacobine, mais qui n'a pas encore même reconnu ce que l'Europe a demandé, la charte pour les langues minoritaires, je trouve très important qu'on témoigne qu'il y a d'autres langues que le français. Tout simplement, un français devrait savoir au moins deux langues, le français et une autre langue qui est parlée sur son territoire, le breton ou le basque ou l'arabe ou le portugais ou d'autres langues, l'italien. Ou... Parce qu'il y a des gens d'autres communautés, mais quand il s'agit, disons, de français historique comme les bretons, c'est une langue de l'intérieur. Donc on ne peut pas l'éliminer. J'ai trouvé scandaleux que ce soit éliminé. Donc c'est pour ça aussi que je me suis attaché. Le meilleur moyen de faire revivre une langue, c'est ou de la parler, ou de l'écrire, ou de la pratiquer, quoi. De la lire, en tout cas.